Je suis enseignant-chercheur à l'université de Lille, plutôt en physique et physique appliquée, ce qui est en France traduit par l'électronique. Donc cette notion de responsabilité, elle est assez éloignée, mais ce que je veux apporter peut-être, c'est aussi quelque chose un petit peu sous forme de témoignage, puisque voilà, on est confronté aujourd'hui à des règles de fonctionnement qui ont énormément évolué par rapport à quelques années. Et donc, c'est de cela dont je voudrais que l'on débatte. J'ai centré mon propos effectivement sur la responsabilité, et pas la responsabilité individuelle, mais sur la responsabilité des organisations, et en particulier simplement l'aspect des universités, en quoi les universités peuvent travailler à une meilleure responsabilisation de la recherche et de l'enseignement supérieur d'ailleurs, au niveau d'un territoire ou plus. Mon propos va se faire en trois temps. Je vais essayer de placer un contexte, le contexte actuel de la recherche qui a beaucoup évolué. Parler de l'avènement d'une loi qui s'appelle LRU, la loi relative à la liberté et l'autonomie des universités. Voilà. Gère aujourd'hui un petit peu le mode de fonctionnement du monde universitaire. Et puis parler donc un peu sur la responsabilité en laissant une question ouverte. La responsabilité donc qui effectivement doit être revue et repensée. Il y a eu énormément de choses effectivement après-guerre hein, sur bon essentiellement par les physiciens puisqu'il y avait une responsabilité quand même importante des physiciens sur bien ce qui s'est passé à Hiroshima. Je pense que dans les années, on va dire 70 jusque 80, eh bien, il y avait peut-être une responsabilité sans doute plus accrue qu'aujourd'hui. Bon. À voir. Je vais commencer. Alors, je vais m'asseoir. Je vais commencer un petit peu par exemple, l'énoncé de la Commission européenne en 2000, qui souhaite placer l'Europe comme première économie de la connaissance. Et c'est bien le mot économie de la connaissance qui est employé. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, 2015, c'est pas le cas, bien sûr, puisque voilà, il y a d'autres puissances quand même qui ont un niveau de développement scientifique et technologique extrêmement important. Les pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil ont aujourd'hui des recherches scientifiques et techniques qui sont extrêmement performantes également. Il y a une inflexion un petit peu du discours pour ce programme qui est en cours, Horizon 2020, et on parle aujourd'hui plutôt de société de la connaissance. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Au niveau international, je dirais que on a une perception, je pense, qui va du domaine de l'entendement, hein, puisqu'on parlait hier d'entendement par rapport à des impacts humains sur la planète, c'est-à-dire la perception du monde fini. Le monde est fini, on commence à le sentir, hein, c'est la notion d'anthropocène, et il est fini, on va dire, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, c'est-à-dire qu'on peut penser, eh bien, à la notion de développement durable, voire de décroissance, de se reposer le problème de nos consommations, de nos modes de vie, ou pour le pire, c'est-à-dire on peut eh bien voir cela comme une possibilité de développer encore davantage eh bien, les technologies pour, Dominique là en a parlé par exemple pour le climat, la géoengineering, c'est un petit peu eh bien, une réponse à un mode de vie par des technologies. Alors bien sûr, quand je mets ce sens, on peut l'inverser. C'est-à-dire que il y a des personnes, je pense, qui peuvent penser que le meilleur, c'est la fuite en avant technologique. Quand je mets transmonde, hein, c'est aujourd'hui on a pour le vivant la transgénèse. Pour les matériaux, on parle de matériaux intelligents, on pourrait appeler ça du transmatériau, les nanomatériaux, les matériaux intelligents. On parle de transhumanisme, l'homme augmenté. Donc ça, ce sont également des possibles. Et ce sont des possibles technologiques. Voilà. Donc quelles valeurs on veut défendre à un moment donné. Le contexte international, c'est aussi une compétition. La compétition, elle est essentiellement financière, avec des masses de capitaux qui sont très mobiles, énormes. Elle est financière, mais également intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a énormément de développements aujourd'hui qui sont basés sur eh bien, la connaissance, les savoirs, et en particulier scientifiques et techniques. Et puis, des choses dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui changent actuellement la perception du monde, hein, nos modes de vie intimes, c'est ce que j'ai appelé la guerre informationnelle, qui est basée sur les technologies de l'information et de la communication, et donc en particulier les aspects électroniques et informatiques et automatiques. Donc ça, c'est l'aspect, voilà. Alors là-dedans, dans un schéma pareil, qu'est-ce que la responsabilité scientifique et technique? Aujourd'hui, on parle essentiellement en termes de responsabilité, on parle d'éthique et d'éthique de la recherche. Et l'éthique de la recherche aujourd'hui, c'est surtout l'intégrité scientifique. C'est-à-dire, si je prends par exemple la déclaration de Singapour, hein, qui intéresse les scientifiques, on a quatre principes principaux qui sont énoncés. C'est en premier l'honnêteté, voilà, du chercheur dans ses recherches. C'est la conduite responsable de ses recherches. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que le troisièmement, c'est eh bien, avoir des principes de courtoisie et de loyauté, en fait, envers ses collègues, etc. Et quatrièmement, eh bien, c'est avoir une bonne gestion des financements que l'on obtient éventuellement par un tiers, qui peut être donc aussi bien l'État que une entreprise privée. Voilà. Donc ça se limite, on va dire, en gros, un petit peu à ça, c'est-à-dire des déclarations de principe sans qu'il y ait vraiment d'injonction pour le faire, hein. Bien sûr, ça reste du domaine de la déontologie. Alors, également au niveau peut-être plus individuel, il y a une étude du COMETS, donc ça c'est le comité d'éthique du CNRS. Le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique, qui constate, voilà, qui a constaté récemment qu'il y avait une forte augmentation de rétractation d'articles dans les sciences du vivant. Pourtant, dès 1983, existe le comité national d'éthique, en particulier, qui est fortement centré sur les sciences du vivant. Et effectivement, à mon avis, il doit y avoir un petit peu urgence, puisque on assiste actuellement à la mise en place de comités, de dispositifs autour de l'éthique dans d'autres organismes de recherche comme l'IRD, l'INRA, donc l'Institut de recherche du développement, l'Institut national de recherche agronomique, l'Institut Curie ou le CNRS. Alors moi, je vais plutôt m'intéresser à la responsabilité au niveau des organisations, qui peut, je pense, rentrer dans le cadre de la RSO, c'est-à-dire la responsabilité sociale des organisations qui bénéficient d'une norme ISO internationale 26000 depuis 2010, mais à savoir que cette norme n'est pas contraignante du tout, mais elle existe. Et il est quand même peut-être intéressant d'en tirer quelque chose. Et l'idée, en fait, de cette norme, c'est d'aller au-delà de la responsabilité individuelle, qui est forcément rétrospective, c'est-à-dire que, voilà, quand on a un industriel qui crée une dégradation environnementale, eh bien, vous pouvez, par le droit, essayer d'avoir réparation de cette pollution. Eh bien, l'idée, c'est d'essayer d'envisager une responsabilité collective qui soit aussi prospective. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise qui s'installe dans un lieu, eh bien, c'est aussi d'étudier les impacts environnementaux, sociaux ou autres qu'il peut y avoir sur l'installation de cette entreprise. Voilà. Donc, étudier aussi les impacts. Donc, en ce sens-là, c'est assez intéressant. Alors, moi, je me centre sur des types d'organisations qui sont ceux de la recherche publique, qui sont en gros de trois ordres. Il y a les organismes de recherche, où vous avez donc des personnels qui font de la recherche à temps plein. Ce sont les chercheurs, par exemple, du CNRS ou des organismes de recherche que j'ai cités précédemment. On a aujourd'hui des écoles d'ingénieurs, c'est-à-dire des écoles qui font de la formation, qui s'intéressent de plus en plus aux aspects de recherche en s'associant aux organismes ou à des universités. Donc là, avec une forte concentration sur les développements d'enseignement appliqués. Et puis les universités qui sont à double compétence, qui font en même temps de la formation et en même temps de la recherche. Voilà. Donc c'est de ça dont je vais parler. Alors, je vais essayer de placer ça dans un contexte qui est celui de l'évolution quand même importante de cette notion de recherche scientifique et technique. Depuis la révolution donc industrielle du 19e siècle, l'évolution de la démographie également, cet ensemble bute sur un monde fini. Accès aux ressources minières, par exemple, et surpopulation sur certains endroits. Le développement économique aujourd'hui est fortement basé sur les sciences et les techniques. Depuis les années 70, on a une naissance de la critique de ce mode de développement, le Club de Rome par exemple. Et j'insiste, cette critique est très différente d'une approche anti-science. D'accord ? On n'est pas sur quelque chose qui est anti-science. De plus en plus, donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a une imbrication de plus en plus forte entre différentes sphères, avec la recherche scientifique. C'est les sphères politiques, c'est les sphères sociales, économiques, environnementales. On entre donc des développements scientifiques qui s'intéressent à un monde qui est de plus en plus complexe. On sort des laboratoires avec ces prototypes. On entre dans un monde du risque se crée également une crise de la légitimité scientifique. On a également une distension qui se fait du lien entre savants et citoyens, au 18e, début 19e, au profit de liens qui se professionnalisent, recherche, expertise, marché. Alors, je pense qu'on peut aujourd'hui parler d'industrialisation de la production de connaissances scientifiques. Pourquoi ? Eh bien, on a une spécialisation croissante des sciences. C'est particulièrement vrai en physique. Voilà, on travaille sur des bouts de sujets qui sont extrêmement pointus, qui se développent. On peut avoir des sujets qui sont développés par 3 ou 4 chercheurs de par le monde. On peut avoir des spécialisations qui sont théoriques et plus appliquées. On a des spécialisations qui vont même quelquefois assez loin, puisque par exemple, ce que j'ai appris récemment, c'est que la rédaction de publication en Chine, par exemple, est faite par une personne qui est spécialisée dans la rédaction de la publication en lien avec l'équipe de recherche, parce que voilà, maîtrise sans doute bien la langue anglaise. Donc, on a une division du travail, quand même, très importante, et je pense, suivie d'une prolétarisation du travailleur scientifique. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un maître de conférence, après 8 ans, mais plus en général, parce qu'il faut voyager de par le monde, faire du post-doc, etc., qui démarre à 1 800 € net par mois. Donc la gouvernance, on a une gouvernance qui a fortement évolué également. Et cette gouvernance, elle se fait aujourd'hui par projet et par évaluation quantitative. Donc c'est une emprise sur le mode de gestion de la recherche, qui est une emprise de type néolibéral. On a une mise en concurrence généralisée. Et cette mise en concurrence généralisée, je pense qu'elle ne va pas s'arrêter uniquement aux sciences exactes ou les sciences naturelles, mais elle va s'étendre également aux sciences humaines et sociales, et en particulier donc à des activités qui sont beaucoup plus humaines. Aujourd'hui, et je ne sais pas si vous avez suivi, par exemple, un mouvement qui s'appelait l'appel des appels à la fin des années 2000. Ce qu'on a activité, c'est bien de essayer d'avoir des modes de gestion au niveau de l'éducation, de la santé, de la justice, de la police, sur ces modes de fonctionnement néolibéraux. Donc avec une partie importante de privatisation pour assurer la concurrence. On a une optimisation, en tout cas, une professionnalisation de l'interface entre recherche et production technique ou technologique. Il suffit de réfléchir simplement à la généralisation du brevet. Il y a un institut qui est l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui, il y a plusieurs années, s'appelait l'Institut national de la propriété industrielle. Aujourd'hui, c'est bien la propriété intellectuelle dont on parle. Ça n'a pas des conséquences tout à fait anodines. On a, je l'ai dit tout à l'heure, des mobilités de capitaux qui sont énormes, qui doivent s'investir. Et donc, cette professionnalisation de l'innovation, elle passe beaucoup par des partenariats publics-privés. Il y a très peu aujourd'hui d'innovations qui se font sans financement public, hein, faut quand même le savoir. Donc, au travers, je ne sais pas, de start-up, de spin-off, de business angel, de pôle de compétitivité. Enfin, il y a tout un vocabulaire qui s'est développé autour de cette interface recherche et technique. Donc, voilà ce que l'on assiste en plus. Et parce que voilà, je suis à l'université, c'est aussi de voir qu'on va vers une industrialisation un petit peu de la transmission des connaissances, aussi bien en formation initiale, on va parler plutôt de formation par compétences. On parle de formation tout au long de la vie, où l'université serait bien représentée. On peut parler de la culture scientifique et technique, qui sera amenée donc à évoluer pour être plus performante, pour promouvoir les sciences et les techniques. Voilà. Alors, l'évolution de l'université française, eh bien, elle se fait vers les standards internationaux, hein, pour le meilleur et pour le pire. Je ne peux pas non plus tout à fait obérer l'irresponsabilité un petit peu des scientifiques eux-mêmes, quand même. Il faut peut-être en parler un petit peu. Pour moi, il y a disparition de cette notion de communauté scientifique. Dans la lettre précédente, on entendait bien la communauté scientifique. À mon avis, ça n'existe plus. On est dans une disciplinarisation des connaissances qui sont extrêmement pointues. On a une compétition internationale. Les recherches que l'on mène en tant que chercheur, donc ce sont des recherches qui sont propres. Si vous êtes à 3 ou 4 à travailler dans le monde, vous êtes les meilleurs. Cette notion d'ego est aussi, je pense, à prendre en compte. Et puis, on a une tendance à placer ces recherches un petit peu au-delà des domaines de validité, parce qu'il faut parfois aller chercher des financements pour assurer ces recherches. Donc, on passe bien de l'art, vraiment, c'est vrai aussi pour le monde culturel et artistique, d'accord, cette productivité qu'on doit améliorer. Donc, passage d'un état d'art ou d'artisanat, comme il a pu se passer au 19e, à l'industrie de la connaissance, avec un management de la recherche scientifique qui est aussi fait par des scientifiques. Les patrons de laboratoire sont aussi issus des scientifiques. Alors, dans quelles conditions on peut encore parler de communauté scientifique, justement, avec des injonctions de management. Aujourd'hui, on a une limite, je pense, également de la cogestion, notamment au niveau des universités et des conseils qui gèrent les universités, qui sont extrêmement peu critiques vis-à-vis de la direction des universités. On a des institutions vieillissantes et je me demande, quand je regarde l'Académie des sciences, si on ne peut pas parler de gérontocratie. Voilà. Alors, sur ce, arrive la LRU, hein, puisque voilà, il y a eu un certain nombre d'évaluations de la recherche française, notamment autour des critères d'évaluation de Shanghai. Et puis, on se rend compte que brutalement, voilà, on est finalement très loin des standards internationaux. Donc, on crée cette loi, LRU, donc la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Il y a bien responsabilité dedans, et on reviendra sur cette notion. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être attractif, en particulier vis-à-vis des étudiants, réduire le taux d'échec à l'université, hein, qui est encore trop important. C'est d'améliorer la gouvernance des universités par un renforcement du conseil d'administration des universités. Et puis, de créer des structures qui soient suffisamment importantes pour avoir une bonne visibilité internationale. Donc ça fait, sur l'ensemble, un profond changement du mode de fonctionnement des universités vers un standard international avec, par exemple, la possibilité de recruter des enseignants-chercheurs contractuels qui peuvent être voilà, très, très bien payés parce que très reconnus. On peut eh bien, avoir des fonds privés pour fonctionner, etc., etc. On a augmenté le pouvoir du conseil d'administration, en particulier le président de l'université. Et on a fondu en fait deux conseils qui existaient au sein de l'université. Un plus centré sur les aspects d'enseignement, l'autre sur les aspects recherche, en un conseil académique. Et ce conseil académique ne s'intéresse plus qu'à la vie des personnels chercheurs et enseignants-chercheurs, c'est-à-dire les promotions, les affectations, etc. Alors, je dois dire que c'est surtout la mise en œuvre qui m'a un petit peu interloqué. Donc, la mise en œuvre, hein, il faut savoir qu'il y a eu quand même un fort mouvement de contestation. Bon, ça n'a pas empêché que la loi soit promulguée, mais bon, les retraites, il y avait aussi un grand mouvement. La réforme des retraites a eu lieu. Bon, donc, on a eu un fort mouvement de contestation qui s'est un petit peu... donc émoussé au fur et à mesure de détractation, voilà. Donc notamment au niveau du statut des chercheurs et enseignants-chercheurs, donc pour garantir et continuer à garantir la liberté académique essentiellement, et puis également des appuis aux étudiants, d'accord, pour essayer de réduire justement l'échec au niveau de l'université. Donc cette loi a passé, et je dois dire que j'étais assez surpris par la rapidité de la mise en œuvre de cette loi qui s'est faite pratiquement en une année. C'est-à-dire que vous prenez en début d'année, eh bien on est tous voilà, dans la rue, on conteste. Et au bout d'un an, finalement, tout est en place et tout le monde part. Voilà, en gros, c'est la course à l'échalote, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même être le premier pour réussir à avoir ces financements. Enfin, c'est mon interprétation, bien sûr, on pourra en discuter. Mais en tout cas, ça m'a assez interloqué, et donc ça interroge quand même sur la volonté réelle des communautés universitaires de combattre un tel cadre néolibéral. Bien sûr, le monde de la recherche, c'est pas un monde, on va dire, très consensuel. Hein. Il y a des luttes, il y a des choses à démontrer qui sont pas forcément, donc parfois, voilà. Alors, dans la pratique, aujourd'hui, eh bien, cette idée d'autonomie réelle des universités, elle est quand même très difficile. C'est-à-dire qu'on se rend compte que voilà, les fonds, on va dire, récurrents d'allocation, récurrents de crédit, eh bien, n'a pas changé depuis 2007-2008. Donc, c'est un peu problématique. Hein, le coût de la vie augmente tout le temps, quand même. Donc, il est quand même très difficile de s'extraire du secteur marchand. Donc, cette notion d'aller chercher des contrats, également des contrats industriels et pas uniquement de recherche, est assez prégnant. On est passé sur des recherches uniquement en mode projet, quasiment. C'est-à-dire que les fonds alloués aux laboratoires, par exemple, dits fonds récurrents, hein, tous les ans il y a une enveloppe, n'assurent plus cette possibilité de faire des recherches, et particulièrement en recherche expérimentale. Et donc, eh bien, il faut abonder sur des projets. Et les projets, c'est des projets de recherche. Donc, il y a l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui gère un certain nombre de programmes. Et puis, il y a eu également le grand emprunt qui a permis de dégager de l'argent pour créer des projets, donc EX, EquipeX, IDEX, LabEX. Donc, voilà, c'est des équipements d'excellence, des laboratoires d'excellence, des universités d'excellence. Et simplement, voilà, on doit faire des projets. Et si ces projets passent, eh bien, on a des financements supplémentaires. Donc, c'est bien la mise en concurrence généralisée des établissements et des équipes universitaires, des équipes de recherche. Au niveau de l'enseignement, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il va falloir faire quand même des filières d'enseignement qui soient rentables. C'est-à-dire que voilà, on assiste à quoi ? Diminution d'options dans les masters parce qu'il n'y a pas suffisamment d'étudiants, etc. etc. Bon. Donc, tout simplement, c'est une volonté d'augmenter la productivité de ce que peut fournir voilà, un organisme de recherche tel qu'une université. Je prends un exemple très précis. Il n'y a pas de prise en compte aujourd'hui de ce qu'on appelle le GVT, donc c'est la garantie vieillesse technicité. C'est-à-dire que, bon, comme on est fonctionnaire, eh bien, on a une évolution de carrière qui se fait et donc une évolution du salaire. Et ça, ce n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que les financements sont restés à ceux de 2007-2008. Voilà. Sauf que les personnels ont vieilli. Donc sont montés en qualification, donc en salaire quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, simplement, si on n'arrive plus à assurer ce glissement vieillesse technicité, eh bien, quand quelqu'un part à la retraite, qu'est-ce qu'on fait ? On va geler le poste et puis à la place, on va mettre un CDD. Un CDD, c'est quoi ? C'est un doctorant, c'est un post-doctorant ou bien si on a des besoins administratifs, eh bien, ce sera une secrétaire ou autre. Mais tout ça en CDD. Et puis, recours à la sous-traitance. Bon, voilà ce qui s'est passé, finalement, dans le privé. Il y a pas de... Donc, la mise en compétition générale, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc, les IDEX, ce sont les initiatives d'excellence pour créer des grosses universités visibles. On est aujourd'hui à peu près 80 universités. On en veut une dizaine qui soient visibles au niveau international, en gros. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors là-dedans, la responsabilité, alors pour moi c'est difficile de parler responsabilité. Donc simplement, je vais vous donner mes éléments de réflexion. Alors déjà, cette notion, enfin, je pense que le premier jour, on parlait d'éthique. Et l'éthique, c'est difficile, en fait, dans l'absolu, à définir. Il y a énormément de choses. Bon. Je parle d'éthique, bon, morale, politique, droit. Je pense que déontologie, que j'ai oublié. Donc ça rentre pour moi un petit peu dans ce champ, un petit peu de cette notion de responsabilité. Et j'ai essayé de caractériser un petit peu mieux. C'est quoi la différence entre éthique, morale, politique, droit ? Bah, peut-être que alors l'éthique, ce serait... eh bien, créer un espace de réflexion pour faire émerger les valeurs et questionner les fins par rapport à la recherche scientifique. La morale, ce serait une éthique a priori, c'est-à-dire qu'on pose une certaine morale et puis voilà, il faut qu'on y adhère. La politique eh bien, travaille uniquement sur les fins, sur les finalités finalement des recherches politiques. Et on oublie peut-être quelque chose, à mon avis, qui serait intéressant de creuser, c'est le droit. C'est le droit. Et pourquoi le droit ? Eh bien, je m'appuie également sur ce qu'on a fait au sein de la Fondation Sciences Citoyennes, de FSC, à propos, par exemple, des lanceurs d'alerte ou à propos des conflits d'intérêts. C'est-à-dire que les lanceurs d'alerte, eh bien, on a participé à l'élaboration des lois, c'est-à-dire en faisant des propositions de loi, soumettre au Parlement, à des députés qui sont susceptibles de nous écouter, de nous relayer, pour faire passer dans la loi voilà, cette notion, par exemple, de lanceur d'alerte. Donc, Je pense que le droit, c'est quelque chose d'important qu'il convient d'intéresser. On parlait, enfin Jacques parlait de convention de citoyens, hein, pareil. On a une convention, un projet de loi autour des conventions de citoyens. Donc, voilà, on travaille sur ça. On a travaillé, par exemple, également sur les assises. Il y avait en 2012 les assises nationales de la recherche, où il y a eu une grande consultation. Eh bien, cette consultation, on y a participé, même si ce n'était pas en premier ressort, hein, on ne nous a rien demandé. Hein. Simplement, on a insisté pour essayer d'apporter une contribution, et en particulier une contribution orale, et on a eu à un moment donné quand même gain de cause, même si on est passé le dernier jour, à la dernière heure, pour faire ces propositions. Mais en tout cas, ces propositions que l'on a faites, par exemple autour de cette notion de recherche participative, eh bien, est entrée aujourd'hui un petit peu dans la loi de 2013. Donc, ça nous semble quand même très important et d'y travailler en pensant, je pense, que le droit est quelque chose qui doit évoluer également. Alors, quel rôle pour l'université? Alors aujourd'hui, le rôle de l'université, il est principalement en termes d'accompagnement du monde socio-économique. En tout cas, on voit l'université comme ça. Les décideurs voient l'université comme un accompagnement du monde socio-économique. Quand on parle de responsabilité sociale des universités, la RSU, en fait, aujourd'hui, elle n'est centrée que sur les aspects de développement durable. On ne parle pratiquement que de ça. J'ai vu quelque chose que je ne connaissais pas d'ailleurs, donc c'est quand même assez révélateur. L'Observatoire de la responsabilité sociétale des universités, où il y a un site internet, l'ORSU. Voilà, il y a trois principes qui sont énoncés. C'est les trois qui sont indiqués ici, hein. C'est le rôle de l'université pour former des citoyens responsables. Bien. Favoriser et reconnaître l'engagement solidaire de la communauté universitaire. C'est assez fort, quand même. Hein, c'est assez fort. Le rôle de l'université comme ressource éducative pour les territoires, c'est-à-dire relation entre université et territoire, dans un contexte d'IDEX, quoi, quand même. Il faut quand même voir ça. Le rôle de l'université pour le développement durable des territoires et réciproquement. Voilà. Donc ça, c'est cet observatoire que je ne connaissais pas, qui l'affiche. Dans quelle mesure ces responsabilités vont être effectivement prises en compte dans les universités. Alors, je pense que ça restera au niveau, enfin pour l'instant, je ne vois pas autrement, ça restera du niveau du volontarisme, c'est-à-dire que ça dépendra un petit peu des orientations ou de l'affichage qu'une université voudra donner par rapport au développement durable ou par rapport à la RSU. Bon. Donc, je pense qu'il est important de retrouver dans l'institution universitaire une institution qui soit instituante, c'est-à-dire qui n'est pas là pour répondre, forcément, bien qu'elle doit le faire également, mais qu'elle puisse également proposer. Et qu'elle retrouve un petit peu ce rôle de transformation et de développement social. Et ça, à mon avis, ça ne peut se faire que aujourd'hui, en élargissant simplement la base des parties prenantes. Et là, je reviens sur ce qu'avait développé Rémi hier. C'est, voilà, aujourd'hui, quel contrat entre la société et le monde de la recherche. Ah oui, j'oubliais quand même un petit mot. Un petit mot au niveau européen, qui est une structure quand même très technocratique. D'accord? Je ne sais pas si on peut parler de démocratie au niveau européen, mais voilà. Toujours est-il que, par exemple, au niveau européen, il existe un programme transversal qui s'appelle Science avec et pour la société, qui fonctionne déjà depuis deux ou trois programmes, donc déjà depuis une vingtaine d'années, quoi, on va dire. Et donc, dans le nouveau programme Horizon 2020, il se décline beaucoup sous la forme de RRI, c'est-à-dire recherche et innovation responsable avec plutôt un mode projet. L'idée, encore une fois, là, et ce qui est un petit peu dommage, c'est de repasser, même sur ces questions-là, eh bien, en mode projet. Mais au moins, on va dire, ça existe. Il y a quelque chose qui existe, il y a sans doute des leviers sur lesquels on puisse agir. C'est ça qui est important. Et dans ce programme Science et avec pour la société, il y a quand même une idée derrière. Et finalement, l'affichage, c'est aussi des choses qui sont importantes. Et l'idée, c'est cette volonté de travailler avec des organisations de la société civile, c'est-à-dire des citoyens. Donc des projets qui se montent de façon conjointe entre des équipes de recherche et des associations. Voilà. Et je pense que là, il doit y avoir des leviers. Donc ce contrat, voilà, science-société. Bon, le rapport science-société, peut-être, on peut le définir en trois aspects. Je veux dire, après-guerre, peut-être qu'on était sur un mode quand même science et société, où vous aviez deux sphères qui étaient bien séparées, deux entités qui interagissaient éventuellement. Bon, interagir, je veux dire, à cette époque-là, c'était bon, beaucoup, bien sûr, sur les aspects militaires, sur les aspects un peu économiques. Et l'idée, c'est d'optimiser ces circulations. Bon. Peut-être plus récemment, on est plutôt sur un mode science et société avec des chevauchements entre les deux sphères. Donc les sciences apportent des éclairages sur des enjeux cruciaux pour la société, mais avec, eh bien, compte tenu des objets d'études qui sont extrêmement complexes, avec des limites sur la prédictibilité et la notion d'incertitude. Et donc aujourd'hui, ce dont parlait, je pense, Rémi, hier, c'est d'aller plus loin que ça, et c'est de parler de science en société. C'est-à-dire que la science ou les sciences sont aussi une activité humaine qui coévolue en fonction de la société avec d'autres domaines. Simplement, c'est les aspects de professionnalisation qui va maintenir un espace intérieur, mais cet espace intérieur n'est pas tout à fait totalement imperméable. Donc ce nouveau contrat science-société, il émerge et il est quand même beaucoup basé sur la notion de participation. Voilà, nous on travaille par exemple, mais d'autres aujourd'hui, même instituts de recherche, travaillent sur la notion de tiers secteur de la connaissance. On a cette notion de recherche participative qui commence à apparaître en France, qui existe déjà à l'étranger. On a eu des expériences dans les années 80 de boutiques de sciences qui réapparaissent aujourd'hui. Donc les boutiques de sciences, c'est essayer de faire remonter au niveau d'une institution de recherche une demande sociale de recherche et la mettre en forme et y travailler. Et puis la notion de savoir ouvert. Voilà. Donc, pour conclure, alors, la science existe-t-elle encore? Moi, je dirais que si oui, aujourd'hui, il faut parler de la science. Si oui, c'est une religion, c'est la religion. Sinon, il faut parler, je pense, de science en société. Dans un cadre, on va dire, de responsabilité, il y a une équation, à mon avis, qui sera difficile. Moi, j'ai pas la solution actuellement. Il faut y travailler. Eh bien, c'est l'équilibre entre la liberté académique, la liberté intellectuelle d'un chercheur, et puis les devoirs vis-à-vis de sa structure, l'université ici en l'occurrence, des étudiants et également de la société, du monde socio-économique. On est, je pense, sur une nouvelle étape qu'il faut penser dans la responsabilité. Cette nouvelle étape, c'est bien la maîtrise des sciences et des techniques. À mon avis, ça va se faire dans la douleur. Il suffit de penser, par exemple, et ça reviendra, à la notion de principe. Vous avez entendu parler ce principe d'innovation, la loi Macron, voilà, l'écologie comme frein au développement. Enfin, principe d'innovation en lieu et place du principe de précaution. quand même. Ça, ce serait un énorme changement dans enfin, ce que ça impliquerait. Ce serait quand même assez énorme au niveau, en tout cas, de la maîtrise des sciences et des techniques. Alors là, c'est pratiquement réduit à zéro. Alors nous, bon, c'est vrai qu'à Sciences Citoyennes, donc, on engage actuellement un travail sur la responsabilité scientifique. Je pense qu'Isabelle, ce soir, en parlera davantage. Peut-être pour essayer de définir un principe de responsabilité. En tout cas, ça pose, je pense, un rapport à la démocratie qui est quand même importante. J'entends le terme, je l'ai dit ce matin, j'ai entendu ce terme d'ingénierie démocratique. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En tout cas, à mon avis, c'est quand même beaucoup basé sur les sciences de façon générale. L'interaction aujourd'hui entre sciences naturelles, sciences humaines et sociales est de plus en plus importante. C'est-à-dire que les sciences et les techniques telles qu'elles sont faites aujourd'hui, bien, sont un petit peu dans l'impasse. Interroger des usages, par exemple, ça devient primordial pour le développement d'une technique. Donc, cette imbrication. Ingénierie démocratique, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'on a une course entre technocrates et politiques. C'est-à-dire qu'on a, quand je regarde l'Europe, par exemple, des technocrates qui tentent un rapprochement direct avec les citoyens en créant ces programmes de recherche participative. Et en l'occurrence, les politiques qui ont plutôt tendance à s'éloigner des citoyens. Donc là, il y a un problème. Donc sur cet aspect, ce que je veux dire, c'est que cette notion de responsabilité va aussi, est aussi en rapport avec cette notion de démocratie. Voilà, et je termine sur une phrase de Jacques Testard. Voilà, merci.